Je vous invite à se rentrer dans l'émission Dialogue entre Congolais, présenté ce soir par Jean-Claude Tumba Kamanga.
Bonsoir. Réunion des gouverneurs de province et du gouvernement central sur l'évaluation de la décentralisation. Elle s'est clôturée vendredi 9 mai dernier à Kinshasa. Cette réunion visait, entre autres, l'évaluation du processus de décentralisation, le rétablissement de l'autorité de l'État et la recherche des stratégies pour juguler la crise alimentaire. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a livré le compte-rendu de cette réunion comme porte-parole de la réunion, plaide pour des solutions urgentes afin, selon lui, de faire avancer les provinces. Quelles sont ses conclusions, les conclusions donc de cette réunion? Ces résolutions vont-elles accélérer le processus de décentralisation? Voilà le thème de cette émission Dialogue entre Congolais. Dans le lot des réactions des auditeurs, Rodrigue Boketsu de Mbandaka, l'Équateur, pense que cette évaluation était urgente car les effets de la décentralisation, selon lui, ne se font pas encore sentir aux provinces. Il accuse le blocage entretenu par le gouvernement central, notamment sur la question des retenues à la source. Pour François Makiambe de Bukavu, toutes les résolutions de la réunion sont vouées à l'échec, d'après lui, car le cadre juridique approprié à la décentralisation n'est pas encore mis en place. Nous accueillons comme invité dans cette émission Didi Manara, gouverneur de la province du Maniema, Philippe Mwanda Bouidi, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, et Albert Ikumba, conseiller du ministre de l'Intérieur du gouvernement central chargé de la décentralisation. Bonsoir à vous, chers invités.
Bonsoir Jean-Claude.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Réunion des gouverneurs de province et du gouvernement central sur l'évaluation de la décentralisation. Quelles sont les conclusions de cette réunion? Selon Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu et porte-parole de la réunion des gouverneurs et du gouvernement central tenue à Kinshasa, les résolutions de cette réunion se réfèrent aux objectifs assignés bien avant. Il s'agit parmi ces objectifs de l'évaluation de la décentralisation, la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que les mesures destinées à juguler la crise alimentaire. À propos justement de la décentralisation, plusieurs recommandations sont destinées à l'Assemblée nationale. On écoute le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, au téléphone de Guy Roger Nyapala.
Par rapport au premier objectif, nous avons destiné les recommandations à l'Assemblée nationale, bien évidemment le Sénat également, qui devra accélérer la mise en place des instruments juridiques, notamment la loi portant statut de province, la loi sur le fonctionnement des ETD, c'est-à-dire les entités des droits décentralisés, et la loi sur la conférence des gouverneurs, parce que nous estimons que une fois ces instruments mis en place, ça permettra que les institutions provinciales puissent fonctionner correctement, connaissant bien entendu les rapports qui les régissent avec le pouvoir central. Mais également, au chapitre de ça, juridique, il y a la loi financière qui devra être changée parce que l'actuelle loi était compatible avec la pension. C'est au niveau effectivement de l'article 175 qui parle des ressources des provinces et du pouvoir central, notamment la retenue à la source de 40%. Donc voilà autant d'éléments qui ne sont pas dans la loi financière qui est encore en exécution aujourd'hui. Et nous estimons que c'est très urgent pour que l'Assemblée nationale puisse examiner une nouvelle loi financière pour permettre à ce que nous puissions cheminer en tenant compte des dispositions constitutionnelles.
Voilà, quelques petits soucis avec le gouverneur de Maniema, Didi Manara, mais nous avons déjà Philippe Mwanda Bouidi. Bonsoir, M. Philippe Mwanda Bouidi.
Bonsoir, monsieur.
Oui, vous avez suivi là le compte-rendu de la réunion des gouverneurs et du gouvernement central. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes satisfait?
Non, vraiment, je ne suis pas satisfait parce que je crois que le gouverneur tel qu'ils sont là avec les assemblées provinciales ont eu à signer plusieurs documents avec les membres du gouvernement central pour effectivement la mise en place ou bien la mise en œuvre de la décentralisation. La raison avancée selon laquelle il y a absence de texte est une raison qui ne tient pas debout. Je le renvoie à l'article 129 de la Constitution qui dit que le gouvernement peut pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Donc l'argument avancé selon lequel il n'y a pas de texte actuel n'est pas valable parce que le gouvernement peut pallier effectivement à cette carence en recourant aux ordonnances lois qui sont prévues par la Constitution. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'article 221, il dit que si pour autant qu'il ne soit pas contraire à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification. À l'inverse, l'article 221 veut dire que tous les textes qui ne sont pas conformes à la Constitution sont abrogés. Et on ne peut pas comprendre comment le gouvernement central doit appliquer maintenant des textes qui ne sont pas en vigueur. Parce que dans les réflexions qu'ils ont eues là, ils ont eux-mêmes reconnu qu'il y a coexistence des lois anciennes en vigueur, mais incompatibles avec la nouvelle Constitution.
Voilà. Nous retenons jusque-là que vous n'êtes pas satisfait, vous êtes rapporteur en fait de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. En attendant d'avoir encore le signal avec le gouverneur de la province du Maniema et Albert Itumba comme conseiller du ministre de l'Intérieur en matière de décentralisation, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vient d'avancer Philippe Monde a vous dit qu'il n'est pas d'abord satisfait du fait que le gouvernement central il y a une autre possibilité, notamment les ordonnances lois.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Il me souviendra qu'on a plusieurs fois participé dans des dialogues avec les rapporteurs de Bas-Congo. Après la réunion des larges concertations avec le gouverneur, il ne me semblait pas que le gouverneur était mécontent de la réunion. D'abord, il faut circonscrire le pourquoi de la réunion. Nous sommes à la veille d'une grande réforme de la décentralisation et tout le monde a voulu qu'il y ait toujours du dialogue concerté entre le pouvoir central et les provinces. C'est pour ça qu'en attendant même que la conférence des gouverneurs, la loi sur la conférence des gouverneurs soit en vigueur, le gouvernement central s'est vu dans l'obligation, devant des grandes questions de l'heure qui interrogent la République, non seulement pas de réfléchir en solo, mais c'est dire que la République est une et indivisible, et d'associer le gouverneur pour d'abord la priorité des priorités qui est le problème de flamber les prix. Mais nous avons voulu profiter de cette occasion pour, parce que ça fait une année que nous avons entamé les procédures de décentralisation pour essayer d'évaluer voilà. Où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne cloche pas, et quelles sont les pistes de solutions
voilà.
Pour que nous puissions aller de l'avant.
Ouais. À ce stade, justement, de l'évaluation, parce que c'est de ça qu'il était question au cours de la réunion des gouverneurs et du gouvernement central, quand vous suivez le gouverneur Julien Paluku qui a parlé au nom de tous les gouverneurs en disant que pour le moment les textes sont au niveau du Parlement, est-ce que vous dites, vous, au niveau du gouvernement central, que vous, en fait, vous avez déjà fait votre part?
Oui, les institutions concourent tous au bien fonctionnement de la République. Et une institution au gouvernement peut faire ses lois. Si ces lois ne terminent pas le processus au Parlement, bon, on ne va pas rester là à tourner les pouces. On doit faire en sorte pour que toutes les institutions fassent leur travail pour qu'on avance. C'est vrai qu'il y a tout un arsenal de lois qui sont en vigueur, mais dont le processus se trouve au niveau du Parlement.
Oui, mais
c'est déjà passé au niveau de l'Assemblée nationale,
oui.
Maintenant c'est au niveau du Sénat. Écoutez, entre-temps, le gouvernement central a introduit ces lois pour que ça soit examiné en procédure d'urgence, parce que nous savions la priorité des priorités à la décentralisation. Mais écoutez, une fois c'est rentré dans l'institution, une autre institution, comme il y a séparation de pouvoir, ben, écoutez, il y a tout un pipeline d'examen de lois et nous ne pouvons pas faire autrement.
Oui, on va revenir, parce que je pense qu'il faudrait préciser un peu l'intention des auditeurs sur cet arsenal. Vous parlez d'un arsenal de lois sur la décentralisation, mais on va d'abord au Parlement pour avoir justement ce qu'en pense Ramazani Chadari, il est député national PPRD et vice-président de la commission politique, administrative et judiciaire. Il déclare que l'Assemblée nationale a déjà fait son travail. Pour l'instant, selon lui, la balle est dans le camp du Sénat. On écoute Ramazani Chadari au téléphone de Guy Roger.
Pour nous, la décentralisation et les lois subséquentes, c'est une question importante pour le développement de nos provinces respectives. Le président de l'Assemblée nationale a même convoqué une session extraordinaire, décembre 2007 à janvier 2008, session qui avait pour mission essentielle d'analyser, d'examiner et d'adopter ces lois sur la décentralisation. Et je vous ai dit que nous avons déjà terminé notre travail et nous avons transmis ça au Sénat. J'ai appris qu'on a demandé des avis et considérations des gouverneurs des provinces, des bourgmestres, des administrateurs de territoire. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a un retard. Moi, je pense que ce retard sera justifié par le Sénat. Mais laissons d'abord les sénateurs faire leur travail. Je crois que leur souci est de nous présenter des lois qui seront mises en application avec beaucoup plus d'efficacité et des résultats tout à fait positifs.
Philippe Mwandavidi, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Et là, vous venez de suivre un député national qui dit qu'en fait, il faut attendre le texte au niveau du Sénat.
Oui, mais le député national a bien dit. Le Parlement a reçu les documents qui sont venus, le projet de loi qui sont venus du gouvernement central, mais il appartenait au gouvernement central, dès son installation, de pouvoir songer déjà à recourir à l'article que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc l'argument qui est avancé n'est pas celui-là qu'il faut avancer. En rapport avec même cette réunion ici qui a eu lieu à Kinshasa, en fait, nous nous sommes étonnés que le gouvernement, en tout cas, presque se soit comporté à une ONG. Ce sont les ONG qui sont là pour dénoncer. Mais le gouvernement, lorsqu'il commence à dénoncer des méfaits qui sont les œuvres de ceux qui sont sous ses ordres. Ah, mais maintenant, on ne comprend plus. Le gouvernement est là à gérer politiquement des actions, même s'il faut faire une espèce d'évaluation. Mais il faut se comporter parce que comment voulez-vous qu'un gouvernement puisse dire que la police n'est pas assez conséquente, il faut le rendre encore beaucoup plus. Même si c'est vrai, mais ça ne doit pas se dire comme ça, publiquement, que des magistrats polis des maisons en complicité avec les conservateurs de politique immobilière, même si c'est vrai, mais le gouvernement ne peut pas lui sortir de tel langage. Alors, on ne comprend plus à la veille d'une interpellation. Je crois qu'il appartient au gouvernement de démissionner. Il a déjà fait montre de certaines, je ne dirais pas incapacité, mais de certaines, de certaines inaptitudes à pouvoir gérer les choses. La Constitution a bien dit à l'article 129, pour l'exécution urgente, et quand il y a urgence, on ne va pas introduire des lois qui vont au Sénat. Le Sénat ne peut pas être considéré aujourd'hui comme étant fautif. Il ne peut pas faire une deuxième lecture sans pouvoir s'assurer de certaines garanties. Et si le Sénat veut prendre son temps, il n'a qu'à prendre son temps. C'est l'urgence à l'endroit du gouvernement que nous la placons.
Ouais, donc le gouvernement, selon vous, doit prendre des mesures en urgence.
Il devait, à l'époque, maintenant c'est trop tard, mais il devait, mais il faut se demander pourquoi, puisque à l'époque, nous avons évoqué les problèmes quand on était en concertation avec les membres du gouvernement central. Et je me rappelle que moi j'avais soulevé le problème, cette application de l'article qui est prévu par la Constitution, l'article 129, pour pallier toutes ces insuffisances. Ils n'ont pas voulu.
Oui, mais là vous nous ramenez évidemment dans le passé, mais on va essayer de faire avancer les choses, Albert. Est-ce qu'il faut d'abord nous rappeler, à l'intention des auditeurs, vous avez parlé de l'arsenal des lois sur la décentralisation. D'après nos informations, il y a 3 ou 4 lois qui sont au Parlement en ce moment.
Merci beaucoup de la question. Je voulais d'abord préciser quelque chose en matière de loi, parce qu'il est en train de parler il évoque l'article 221 de la Constitution. L'article 221 de la Constitution stipule que pour peu que les dispositions soient contraires à la Constitution, les lois existantes peuvent être appliquées. Nous sommes en province. La décentralisation concerne l'autonomie de province. Les institutions provinciales, vous voyez les gouvernements provinciaux, avec les gouverneurs et tous ces ministres. Vous voyez l'ensemble provincial. Quand vous regardez dans les lois existantes, parce que l'article 221 dit, vous appliquez les lois existantes. Dans les lois existantes, est-ce que dans notre pays, nous avions des assemblées provinciales? Non. Nous avions des gouvernements provinciaux. Non. Donc, il faut une nouvelle thérapie. Il faut s'adapter. Voilà. Il ne faut pas se dire, parce que, pour vous rappeler par rapport aux lois, je fais une petite parenthèse, il est bien entendu que ces 3 lois qui sont au niveau du Parlement, en fait, une loi est entrée au niveau du Parlement à partir du gouvernement central et l'Assemblée, la Chambre basse. l'a divisé en trois, à savoir la loi portant statut de province, la loi portant organisation, fonctionnement et les relations sur les ETD, la loi portant sur l'entité territoriale décentralisée et la loi sur la conférence des gouverneurs. Il en reste de là la loi portant sur les limites à l'intérieur de province. C'est la loi qui engrage un peu tout ce qui concerne entité territoriale déconcentrée en province.
Là, c'est parmi les lois qui restent.
Qui restent, qui sont en train de partir au niveau de Parlement.
C'est-à-dire qu'ils sont au niveau du gouvernement.
Et au niveau du gouvernement.
Et vous avez combien de lois au niveau du gouvernement que vous êtes en train d'élaborer?
Il y en avait 11 au total.
Donc, il y avait 8 lois qui traînent au niveau du gouvernement.
Bon, qui traînent au niveau du gouvernement, qui doit être, c'est déjà préparé, c'est parti. C'est déjà passé au niveau de... Au gouvernement, il y a ce qu'on appelle la commission de loi, présidée par son excellence le ministre d'État, Maître Nkoulou. Et les lois, par exemple, sur les limites à l'intérieur de province pour se construire les entités territoriales déconcentrées, à savoir les territoires, les groupements et les villages. Vous avez les lois sur la péréquation qui est au niveau du ministère de plan. Vous avez les lois sur la loi financière qui encadre la fameuse question des 40%. C'est évoqué dans la Constitution, mais les modalités pratiques doivent se retrouver dans cette loi. Vous avez la loi sur la réforme de la fonction publique, savoir l'administration publique provinciale, parce que notre pays ayant une gouvernance à trois niveaux, vous avez maintenant une administration publique au niveau central, vous devez avoir une administration publique au niveau provincial et une administration publique au niveau local. Aujourd'hui, nous venons tous d'une administration centralisée, mais demain, nous aurons une administration à trois vitesses. À côté de cette administration, vous avez l'administration déconcentrée qui dépend du pouvoir central, mais qui assure l'ossature de l'ensemble du territoire national pour que celui-ci ne soit pas désintégré ou désagrégé.
Ouais, donc il faut attendre les 8 lois pour que la loi sur la décentralisation de façon générale soit prête.
Oui, en fait, j'ai dit un arsenal de lois. Les trois lois, déjà, si elles sortent, elles permettent déjà certaines institutions de fonctionner et sans problème, parce que j'ai dit, vous vous rappelez, tout le débat qu'on avait avant, les institutions ont été mises en place avant que les lois ne procèdent. Et nous sommes en train d'aller aux élections locales. Est-ce qu'on va encore mettre des institutions locales en place, à savoir des grandes agglomérations comme les mairies, comme les
communes. Il y a encore beaucoup de choses qui restent.
Encore beaucoup de choses à faire.
Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre, par exemple, à Polydor? C'est un auditeur. Polydor Tangeli, lui, il pense que, après évaluation de la décentralisation, lui, il a l'impression que c'est à contre-cœur que le gouvernement central a opté pour la décentralisation, parce que pour lui, rien n'a été fait pour la concrétisation de la décentralisation. Derek Chumba, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre?
Écoutez, il faut être dedans pour savoir
si... Est-ce que le gouvernement est franc dans ce partenariat, dans cet engagement pour la décentralisation du pays?
On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. La décentralisation, le gouvernement en a tout à fait conscience que c'est la seule chance que ce pays peut avoir pour aller à son développement. Mais seulement la décentralisation a été conçue, a été imaginée par les belligérants. Donc, les belligérants, chacun regardait ses intérêts. On n'a pas donné du temps au temps pour examiner des questions de fond. J'ai toujours dit, la décentralisation, avant d'être politique, elle est éminemment technique. Et cette technicité-là, on ne s'est pas attardé. Quand on voit quelques dispositions dans la Constitution, on s'arrête à ça. Les politiques s'arrêtent à polémiquer sur le dispositif constitutionnel, sans toutefois se dire comment, techniquement, nous appliquons cette disposition constitutionnelle.
Albert, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, toutes nos excuses aux auditeurs par rapport à la présence ou à l'intervention de Didi Manara, le gouverneur de la province du Maniema, qui nous a donné son accord de principe, mais aux dernières minutes, il a éteint tous ses téléphones, donc nous sommes désolés de ne pas avoir un seul gouverneur. Pourtant, c'était une émission particulièrement destinée en fait à avoir le point de vue des gouverneurs là-dessus. Réunion des gouverneurs de province et du gouvernement central sur l'évaluation de la décentralisation. Les résolutions de cette réunion vont-elles accélérer le processus de décentralisation On en parle dans la deuxième partie de cette émission Dialogue entre Congolais.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Réunion des gouverneurs de province et du gouvernement central sur l'évaluation de la décentralisation. Les résolutions de cette réunion vont-elles accélérer le processus de décentralisation? Je propose d'abord de suivre le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungo-Kumanza, lors de l'émission réalisée sur le même sujet, et particulièrement sur les attentes en province de la réunion des gouverneurs. Gabriel Kyungo-Kumanza n'a pas caché les difficultés que rencontrent les provinces en l'absence de la retenue à la source de 40%. Écoute Gabriel Kyungo-Kumanza.
En tant qu'ancien gouverneur du Katanga à l'époque du maréchal, pour nous, on s'est battu pour qu'on parle le plus rétrocession, parce que j'ai fait 4 ans, je n'ai jamais vu un seul euro rétrocédé par le pouvoir central. Et les mêmes habitudes continuent. Kinshasa a trouvé que cela allait se faire. Nous revenons au même rythme que du temps de Mobutu. Alors, je ne sais pas comment la population qui a été si enthousiaste pour voter sur la Constitution, cette fois-ci, que le développement irait à partir de la base. Bien au contraire, aujourd'hui, nous retombons dans les mêmes habitudes du GMPR et du temps de Mobutu. Vraiment, ça, je ne vois aucune différence. C'est encore pire, ça va.
Gabriel Kyungo-Kumanza, vous n'avez pas encore les 40%. Les dotations promises par le gouvernement central connaissent du retard. Mais alors, les réalisations de Moïse Katumbi, le gouverneur, c'est avec quel argent?
Nous sommes des surendettés.
Nous sommes surendettés. Ça, c'est Gabriel Kyungo-Kumanza qui le dit. Albert et Chumba, un petit commentaire par rapport à ce que Kyungo-Kumanza vient de dire.
Oui, c'est très dangereux quand on fait des déclarations de surendettement. Moi, je le prendrais avec prudence parce que la constitution, et c'est une question qui a été largement débattue à la réunion de gouverneurs dont je fais partie, et le problème d'endettement des provinces a pris au moins, je ne sais pas, c'est pas 2 heures. Pourquoi? Parce que la constitution, n'autorise pas que les gouvernements provinciaux, en fait les provinces, aient des déficits. Donc, de deux choses l'une, il y a les ressources qui doivent aller en province, elles ont leurs ressources propres, elles ont leurs ressources, n'en déplaise à l'honorable Kyungu, elles ont leurs ressources, si je ne veux pas dire rétrocéder, parce qu'il me dira je ne veux pas de la rétrocession, je parle du thème constitutionnel, les ressources réallouées. Ce qui du reste revient au même, que ce soit du temps de Mobutu ou maintenant, la réallocation de ressources est une rétrocession de ressources. Donc, parce que ces ressources n'appartiennent pas aux provinces.
Donc, les provinces ont bénéficié donc de ces fonds.
Oui, c'est-à-dire le problème qui s'est posé quand on les a fait inviter au mois de février-mars, où on a eu les séances des transferts des charges. Parce que quand on parle de rétrocession, on s'attarde aux ressources, alors que les prescrits de la Constitution sont tout à fait... Je crois qu'on avait vidé cette question.
Oui,
d'abord les charges.
Oui.
Alors, il y avait un calendrier qui était assorti dans les charges, qui devait être accompagné par la rétrocession.
Oui.
C'est vrai maintenant, par rapport à l'année civile et par rapport à l'année budgétaire, il y a un problème de décalage budgétaire et il y a un retard de réallocation pour parler de ça.
Oui, justement, à ce niveau, Albert, d'abord, on va avoir le point de vue de Philippe Mwanabudi en tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Vous avez suivi, déjà, Albert et Chumba n'étaient pas d'accord que des provinces soient endettées, même surendettées, comme l'a dit Gabriel Kyungo-Kumanza.
Qui paye après si elles sont surendettées et si elles ne sont pas en mesure de rembourser?
Oui, on va
alors
d'abord...
que la Constitution autorise aux provinces d'avoir leur budget en équilibre.
Vous allez poursuivre, mais d'abord avoir le point de vue du côté du Bas-Congo. Oui, Philippe Mwanabudi.
Merci, mon cher Jean-Claude. Moi, je crois que le Moussa Kyungu a raison. Si la province du Katanga s'endette, elle a le droit de s'endetter.
Est-ce que le Bas-Congo le fait?
C'est le 104 de la Constitution, point 7. dit sans préjudice des autres disposés de la présente constitution, les matières suivantes sur la compétence exclusive des provinces. Au point 7, c'est bien dit les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces. Donc, une province peut très bien s'endetter. Le problème qui est évoqué, c'est que la province s'endette, c'est parce que la province, les gouverneurs des provinces ont fait des programmes sur base de 40%. Et si aujourd'hui une province peut surendetter, c'est le gouvernement central qui est responsable. Parce que la constitution n'est pas encore modifiée. Parmi les recommandations qui ont été prises dernièrement à cette concertation, voici ce que le gouvernement central lui-même a reconnu. Enfin, il a pris l'engagement de mettre en place des modalités pratiques pour la mise sur pied, enfin la mise sur pied des modalités pratiques pour en vue de garantir aux provinces la prévisibilité et la régularité des transferts des fonds, conformément au budget 2008. Ça signifie que jusqu'avant les 6 mai, il n'y avait pas de garantie pour les provinces. Les provinces sont là. Vous voyez le problème qui se trouve sur les gouverneurs qui ont les provinces avec leurs assemblées. Au niveau de Kinshasa, on pense que les assemblées provinciales sont jeunes, les assemblées provinciales ne peuvent pas se gérer, et que nous nous comportons en irresponsables. Mais non, mais la base, c'est Kinshasa.
Oui. Mais en tant que temps, comme Gabriel Kingwa Kumanza au niveau du Katanga, le président de l'assemblée provinciale, il dit que la province est surendettée, faute de 40%. Est-ce que le Bas-Congo aussi connaît la même situation?
Non, au niveau du Bas-Congo, il y a une autre politique que je ne vais pas dévoiler ici, je n'ai pas eu ce mandat de dévoiler ici. Ce n'est pas, il y a une autre politique, mais qui peut être similaire. Mais de toutes les façons, l'endettement pour une province, c'est l'article 204.7 de la Constitution. C'est une province qui s'endette en gardant, en conservant la fourchette de ces 40%, ne commet aucune faute.
Albert, oui.
Je vais tranquilliser l'honorable en disant, j'étais dans la réunion, oui. Je vais lui dire pourquoi on a avancé les problèmes de prévisibilité et de régularité. Et je vais lui dire.
Simplement, ça veut dire quoi? Peut-être que les auditeurs.
Justement, ça veut dire quoi? Sur ces deux points, je vais m'attarder sur deux points, et je vais lui dire, quand la Constitution dit que les provinces peuvent s'emprunter pour les emprunts intérieurs, les provinces. Ils peuvent le faire, ils ont raison, mais la discussion était de savoir est-ce qu'ils font des emprunts monétaires ou des emprunts financiers. Pourquoi la différence? C'est la différence, c'est les termes. Quand vous appliquez un emprunt monétaire, elle est à l'échéance d'une année. Quand vous faites un emprunt financier, elle dépasse une année. Pourquoi? Maintenant, quand elle dépasse une année, vous devez intégrer les termes.
Simplement parce que là,
bah oui, bon, ça veut dire que je peux m'expliquer en lingala.
Non, en français, mais
oui, le
gouverneur, quand il emprunte monétaire, ça veut dire quoi? Le gouverneur, quand il
emprunte au niveau de la banque, de l'argent, et que le terme de remboursement est inférieur à une année, donc vous n'avez pas besoin d'inscrire ça dans le budget. Quand ça dépasse une année et votre budget elle est annuel. Donc, vous êtes obligé d'intégrer le problème de cet emprunt. Vous voyez, les échéances changent de nature. Et quand vous intégrez le budget, selon l'article 175 de la Constitution, est consolidé au niveau de,
oui,
au niveau de province.
Oui, mais Albert, écoute-moi. Les provinces n'ont pas encore droit à la retenue à la source des 40%. Et les allocations ou dotations que le gouvernement central vous devriez donner, que vous avez même promis de donner, c'est constitutionnel. Hein? Mais pourquoi ce retard dans la paye de ces dotations?
Une bonne transition pour aborder la prévisibilité et la régularité. C'est pour dire que il y a eu, c'est vrai, un retard dans la réallocation de ressources liées aux 40%. Et il a été promis que ces retards soient comblés partiellement au fur et à mesure que nous avançons et intégrés. Ce n'est pas que ça efface les nouvelles réallocations, mais on doit rattraper les retards.
Pourquoi le retard? Comment vous expliquez le retard?
Il y avait le problème de budget. Je vous ai parlé de l'année civile et de l'année budgétaire. Donc, ces retards, le premier semestre du mois, un premier trimestre, n'avaient pas été, toutes les allocations n'avaient pas été réallouées, si j'ai pu me répéter.
Oui,
mais la prévisibilité, comme je vous l'ai dit, ça voudrait dire que le gouverneur doit planifier leurs actions. Ils ont raison, parce que s'ils ne savent pas quand est-ce que ça va arriver. C'est pour ça qu'ils ont demandé s'il y a moyen. Et ça, on sait qu'ils auront tant d'argent. Mais si ils ne sont pas en possession de ça, doit-il aller par exemple en banque pour que ils puissent récupérer cet argent, quitte à ce que quand le gouvernement central va allouer les recettes, ils puissent les réaffecter. Comme ça, ils sont prévisibles. Et ils peuvent planifier les actions.
Oui,
voilà pourquoi on a évoqué le
problème. Oui, mais Albert, quand vous donnez, juste une précision, quand vous donnez, par exemple, vous savez, le gouvernement central, quand vous donnez 200 millions de francs congolais, et ça c'est un fait, à une province comme le Bandundu, c'est pour une année ou pour un mois?
Écoutez, le problème de l'enveloppe rétrocédée, c'est un autre problème. Nous sommes sur le problème de principe.
Oui, mais pour que les auditeurs sachent, c'est la population de Bandundu qui vous suit, par exemple.
Oui.
Qu'elle sache que sa province, quand elle reçoit cette enveloppe, cette dotation de 200 millions de francs, c'est par an.
Je veux vous assurer que le Bandundu, si on tient compte de la rétrocession, le Bandundu, combien elle contribue dans le budget national? Et si on réalloue son poids par rapport aux 40%, les Bandundu n'aura rien.
Oui, mais par rapport aux 200 millions de francs, vous lui donnez pour combien de temps?
Mais les Bandundu bénéficie des efforts de mobilisation et de mobilisation d'autres provinces.
Ok, même si ça vient d'autres provinces, mais c'est pour une année ou c'est pour un mois?
Non, mais les rétrocessions sont mensuelles.
Donc c'est pas un mois.
Oui, c'est mensuel.
Oui, mais quand vous avez, les provinces ont du retard, vous pensez que les provinces fonctionnent comment?
Mais les provinces n'ont pas que les réallocations, les provinces ont les recettes propres. On dit les recettes propres.
Voilà. Philippe Moana vous dit, vous pensez qu'avec les recettes propres des provinces, elles peuvent bien se débrouiller, si on peut le dire ainsi. Allô? Oui, Philippe Moana vous dit, allô, vous êtes en ligne, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo.
Oui.
Oui. Le gouvernement central dit que, en fait, vous avez vos ressources propres. Donc, si vous n'avez pas les 40%, parce que c'est pas encore effectif, et s'il y a du retard dans la paye des dotations ou allocations de la part du gouvernement central, vous avez, selon le conseil du ministre d'État, chargé de la décentralisation, ministre d'État de l'Intérieur. Alors, selon Albert Ichumba, les provinces, vous avez suffisamment de ressources pour fonctionner.
Bon, en tout cas, moi, j'aimerais bien que M. Albert soit élu gouverneur dans une des provinces pour qu'il change le langage. Là, il comprendra.
Merci beaucoup pour la promotion.
Les ressources propres ne peuvent pas suffire. Et dans le règle de chasse, ces ressources propres, il y a une bonne partie des ressources propres qui sont englouties, qui disparaissent par le fait de la DGE. Donc, il y a des ressources qui n'apparaissent plus parce que la DGE perçoit à partir de Kinshasa, par exemple pour nous les Bas-Congo, toutes les recettes qu'on peut avoir de filous, de Midema ou de je ne sais qui encore, de sucrier, même sur l'impôt foncier, ça c'est au niveau de la DGE, ça échappe aux provinces. Donc aucune province ne peut vivre avec des ressources propres. Je vous dis, messieurs les journalistes, lorsque on était en temps normal, le gouvernement central était incapable de pouvoir faire face à l'envoi régulier, ce qui est même contraire à la constitution parce qu'on parle de retenue, à l'envoi régulier de fonds. Les gouverneurs des provinces sont en train de vivre un calvaire. Et maintenant, étant donné que dans cette concertation, il a été abordé la question, une question relative au stock sur les marchandises en ce qui concerne ce problème relatif effectivement à la crise alimentaire. Il a été décidé dans cette commission-là que d'abord, qu'on puisse mettre, qu'il y ait la mise en place d'une politique de réduction sectorielle de la fiscalité et parafiscalité sur les biens importés et fabriqués localement en vue de stabiliser les prix sur les marchés locaux. Il a été décidé la suppression totale des droits d'entrée sur l'importation des vins.
Qu'est-ce que vous dites par là, oui?
Oui, ça, ce sont des matières prévues par une loi. Et curieusement, une réunion de concertation décide de pouvoir mettre fin à ça. Ça a pour impact que la diminution des recettes prévues par le budget. Et comment vous réduisez les recettes qui sont prévues par le budget? Parce que vous n'avez pas prévu une crise alimentaire quelconque alors que vous venez de prévoir. Et vous parlez maintenant d'une prévisibilité, d'une affectation régulière de fonds aux provinces. Et vous allez voir que ces concertations-là qui ont eu lieu ne produiront aucun effet.
Philippe Mona vous dit, excusez-moi de vous couper, il y a Jean-Cyprien Abedi qui nous écrit depuis Houston aux États-Unis. Il pense que les gouverneurs de province devraient obtenir de la part du gouvernement central une autorisation pouvant leur permettre de conclure des contrats avec des partenaires extérieurs pour le développement de leur province. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mais ça c'est pas, tous les gouverneurs peuvent le faire.
Oui, mais parce que nous, ce qui guide tout le monde, que ce soit le gouvernement central, que ce soit les gouvernements provinciaux, c'est l'intérêt de la province, le respect des dispositions constitutionnelles et tout ce qui peut s'en suivre. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut empêcher un gouverneur de prendre des contacts pour que des investisseurs viennent dans sa province, même en passant, même avec l'autorité du gouvernement central.
Merci beaucoup. Merci.
C'est une idée géniale et tous les gouverneurs, je crois, se emploient à faire cette chose.
Ouais, merci Philippe.
Et ça, c'est dans l'intérêt du gouvernement central. Si la population est à l'aise, le gouvernement central est à l'aise.
Voilà. Merci voilà. Philippe. Merci Philippe Mondawidi. De toute façon, nous vous gardons parce que on est à 10 minutes presque de la fin de cette émission. Je rappelle que nous parlons de la réunion des gouverneurs des provinces et du gouvernement central sur l'évaluation de la décentralisation. Nous recevons Philippe Mondawidi, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, Albert Itumba, conseiller du ministre de l'Intérieur en matière de décentralisation, et nous devrions recevoir Didi Manara, le gouverneur de la province du Maniema, qui nous a faussé compagnie, hein, il faut le dire, dernière minute. Nous revenons juste pour un point avec vous, Albert Itumba. Finalement, la réunion des gouverneurs et du gouvernement central qui s'est tenue à Kinshasa, en quoi cette réunion a permis d'accélérer le processus de décentralisation?
Oui, je voulais revenir sur un truc. Vous avez dit, Dini, l'excellence Didi Manara a éteint ce téléphone. Nous savons les soubresauts de technique. Il peut se trouver qu'il y a un problème de réseau. Et je ne pense pas
que vous vraiment,
il est, je crois, hein, parce que vous avez dit, il a éteint ce téléphone.
Comme bon, du moins, on a appelé, ça ne va pas passer. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. C'est dommage parce que c'est beaucoup plus pour les auditeurs. Hein, c'est
oui. Ok. Je disais, par rapport aux prévisibilités et régularités, l'essentiel, c'est d'assurer à ce que le province, non seulement ait les ressources suffisantes, mais qu'ils savent comment les planifier par rapport à ces ressources.
Oui, je reviens à la question, parce que là, il nous reste juste, ouais. On tend vers la fin, hein, on doit prendre les réactions des autres auditeurs. Mm-hmm. Je repose encore ma question. Est-ce que vous pensez que la réunion de Kinshasa, finalement, est-ce qu'elle aura réussi à booster, à faire avancer?
Oui, je relève déjà un paradoxe. Ouais. Pourquoi nous passons beaucoup plus de temps à discuter des 40% qu'il en a été pendant tout au long de la réunion des gouverneurs. Nous ne sommes pas attardés sur les 40%. Ils ont trouvé que les démarches et les efforts entrepris au niveau du gouvernement central allaient dans le bon sens pour les assurer. Et c'est quoi, le ministre du Budget est intervenu, a fait son exposé, qui expliquait le pourquoi du comment. Et les gouverneurs étaient d'accord.
Oui, en un mot, s'il vous plaît, Albert, parce qu'il faut qu'on avance. En un mot, en quoi la réunion de Kinshasa aura aidé à faire avancer le processus de décentralisation? En un mot, s'il vous plaît.
La réunion du gouverneur a évalué dans l'ensemble. Les processus de décentralisation connaissent un frein par rapport à tout l'arsenal juridique qui n'est pas aujourd'hui mis en place. Nous avons parlé ici des ressources propres aux provinces, mais il y a une loi aussi, que je l'ai oublié de citer, sur la nomenclature des taxes. Et permettre à ce que les provinces et leur propre régie. Mais pour peu que c'est en respectant la loi, comme fait le gouverneur Kimbuta avec la DGK, c'est pour contrôler les recettes. Les recettes de provinces et nationales, des gouvernements provinciaux, doivent être bien encadrées. Hein. Et donc, on a relevé ce point sur l'arsenal juridique une fois plus. Qu'on n'a pas encore mis ces actions. Ces textes ne sont pas aboutis à leur application. Donc, ça crée un frein, et le gouvernement central a eu comme recommandation d'accélérer l'élaboration et plaidoyer au niveau du Parlement pour que ça soit adopté.
Voilà.
Hein? Élaboration pour les textes qui ne sont pas là, qui sont pas encore là-bas, et adoption pour les textes qui sont au niveau du Parlement.
Merci Albert. On va prendre Guy Roger Nyampala qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir Guy Roger, c'est pour les auditeurs.
Sachant qu'il n'avait pas que le problème de la décentralisation dans la réunion de gouverneurs. Oui. Il y avait deux autres problèmes importants sur la sécurité de toutes les provinces et sur la crise alimentaire. Et c'est à cela qu'on s'est attardé beaucoup plus parce que le point culminant de la crise alimentaire se pointe au niveau de l'octobre, au mois d'octobre. Si aujourd'hui nous ne prenons pas les mesures sérieuses pour que les Congos fassent face à cette crise, nous risquons d'avoir aussi des émeutes de la crise et tout ça. Et là, les gouverneurs ont contribué beaucoup plus sur le plan d'action à adopter pour que toute la République se mobilisent comme un seul homme pour lutter contre la famine.
Merci Albert, je rappelle aux auditeurs que ce n'était pas Guy Roger, là c'était Albert qui donnait les dernières précisions sur son idée. Guy Roger, pardon.
Bonsoir Jean-Claude. Ibrahim Senghi de Kisangani en province orientale pense que la décentralisation n'est pas prioritaire pour le moment. Pour lui, la paix à l'Est, la paye des enseignants, des fonctionnaires de l'État et la réhabilitation des infrastructures sont d'une importance capitale. Mwamba de Bukavu au Sud Kivu veut savoir jusqu'à quand les agents et fonctionnaires de l'État verront l'effectivité de la décentralisation quant à la paye des salaires. Enfin, pour Archimède de Goma au Nord Kivu, la décentralisation c'est mieux pour le Congo car elle va aider les provinces à s'auto-prendre en charge.
Merci beaucoup, Roger. Je vais vous demander d'aller vraiment d'être très concis parce que là, il ne reste plus que 3 minutes. Philippe Moina vous dit, essaie de répondre à Archimède de Goma au Nord Kivu qui lui dit que la décentralisation c'est mieux pour le Congo car elle va aider les provinces à s'auto-prendre en charge.
Oui, oui, je lui donne complètement raison et je voudrais demander au gouvernement central ainsi qu'au gouverneur de province qui ont pris part à cette concertation de mettre en pratique ce qu'ils ont pensé là pour l'intérêt de la population. Qu'ils mettent en pratique parce qu'à plusieurs reprises nous avons pris part à des réunions de concertation qui ont été sanctionnées par des procès-verbaux lus publiquement, officiellement et solennellement tant que ça ne vous promet de se faire. Cette fois-ci, je pense qu'ils nous écoutent et qu'ils fassent tout pour que la population puisse effectivement se sentir à l'aise.
Mais je vous garde encore, Philippe Moina, vous dire, quand Ibrahim Senghi de Kisangani lui dit que la décentralisation n'est pas prioritaire pour le moment, c'est plutôt la paix à l'Est, la paix des enseignants, des fonctionnaires, la réhabilitation des infrastructures.
Oui, mais bon, je crois que nous raisonnons à deux vitesses, parce qu'en fait, c'est avec la décentralisation pour que le gouverneur du Nord-Kivu sache très bien régner sur sa province, il faut qu'il soit garanti par des textes qui lui donnent tout le pouvoir. Donc, ce pas de soi. Le constituant, donc le peuple congolais qui a conçu la décentralisation n'est pas un peuple qui a mal raisonné. Donc, ils disent de bonnes choses, mais il ne doit pas oublier que pour que le gouverneur du Nord Kivu puisse très bien gérer sa province, il faut que toutes ces lois soient mises en application, qui sont en gestation, puissent être promulguées et mises en application. Mmh. Pour que la paix des enseignants ait lieu normalement, toutes ces lois sont utiles. Donc, je crois que, d'après la Constitution, c'est toutes ces histoires d'enseignement, c'est ça, l'élève des provinces.
Merci
beaucoup. Le gouvernement central, ça n'a qu'à pas jusqu'à ce jour, on ne sait pas pourquoi.
Merci beaucoup, Philippe Moina. On va terminer avec vous, Albert Etumba, avec Mwamba de Bukavu, qui demande jusqu'à quand les fonctionnaires, par exemple, agents de l'État, verront l'effectivité de la décentralisation à travers la paye.
C'est justement quand on veut dire que jusqu'à quand la décentralisation, les gens pensent toujours c'est parce qu'on n'a pas encore les 40%, c'est parce qu'on n'a pas encore l'argent. Parce que la décentralisation n'est pas que l'argent. Quand vous dites jusqu'à quand le pays des fonctionnaires, c'est aussi la question de la décentralisation. Cette paie de personnel, elle s'est fait comment? Aujourd'hui, je vous dis que c'est le gouvernement central qui paye.
Oui.
Demain, les provinces doivent payer leurs propres fonctionnaires.
Oui. Et juste un mot aussi, parce qu'on est vraiment à la fin, Albert, excusez-moi, avec Alain de Lubumbashi qui craint qu'on aboutisse au fédéralisme, au tribalisme à travers la décentralisation. Juste un mot, s'il vous plaît.
Oh mon nom, les tribalistes, je ne pense pas. La décentralisation rapproche le gouvernement, l'administration des administrés, mais tout en respectant les prescrits de la Constitution et n'est pas versé dans les tribalismes.
Merci beaucoup, Albert Etchumba. Merci à Philippe Moina Wigi. C'est donc la fin de cette émission Dialogue entre Congolais, mise en onde signée Alain Ngoroy, Claude Sienzaki à la réalisation, préparation signée Guy Roger Nyampala et Guy Maté pour recueillir vos réactions, Jean-Claude Tumba Kamanga et toute l'équipe. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.